Bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous voir comme chaque fois. Vous savez que j'ai failli ne pas pouvoir venir aujourd'hui. Ça n'arrive jamais, ça. Hein, vous n'allez pas y croire. J'étais bleu. Sérieux. En fait, hier soir, je regarde mes jambes. Puis j'étais bleu. Vraiment, j'ai dit, mais ça doit être la lumière. C'est bizarre. Puis déjà l'autre jour, je trouvais que mes mains étaient un tout petit peu bleues aussi, un peu grisâtres, comme ça. Je me suis dit, c'est bizarre, j'ai pas l'impression d'avoir des problèmes de circulation, je sais pas. Et puis, comme tout le monde fait, je regarde sur Internet, je dis, ah bah ouais, c'est peut-être un problème de, je sais pas comment ça s'appelle, là. Le sang qui est pas assez oxygéné, ça circule mal, ça n'a pas l'air d'être mortel. Je dis, bon, voilà, je vais aller dormir. Puis ce matin, je me réveille, puis je vois que je suis encore bleu. Je dis à ma femme, mais... C'est moi qui ai un problème ou je suis vraiment bleu? Puis elle regarde, elle voit mes genoux, elle fait « Ouais, t'es quand même bleu. » Je sais pas, faudrait peut-être aller chez le médecin. Je sais pas, c'est bizarre, je me sens quand même bien, mon cœur a l'air de fonctionner correctement. Bon, je vais prendre ma douche, puis dans la douche, je vois que l'eau est bleue aussi. J'ai eu la maladie du nouveau jeans. Mon jeans neuf m'a coloré la peau. Et moi, j'ai cru que j'avais un problème de circulation du sang. Vous vous rendez compte? Bon, donc, si ça vous arrive, n'ayez crainte. C'est que ça. Ah là là. Quel rire on a fait. Ouais. Vous aimez, j'aurais loupé ce moment extraordinaire parce que mon jean, ça détend sur moi. C'est terrible. Donc, on va essayer que Jésus déteigne sur nous plutôt que le jeans. Hein, voilà une transition rapide. Et puis, il semblerait que parfois on connaît mieux la vie des prédicateurs que la parole. Alors, on va se concentrer sur la parole ce matin. Vous êtes d'accord? Bon. Alors, on va continuer cette série Augmente notre foi. On a parlé il y a 3 semaines de la foi qui plaît à Dieu. Et puis, ce matin, nous parlons de la foi qui obtient. Alors, si. Vraiment, si vous voulez un tout petit peu le programme, voilà. Après, on parlera de la foi qui persévère, la foi qui œuvre, la foi qui se voit et la foi qui fait vivre. Donc, c'est une série de messages entrecoupés d'autres messages. Donc, me permets de redonner quelques petits éléments pour que vous ayez tout en mémoire. Alors, cette prière augmente la foi, hein, c'est une prière des disciples face à une situation qui semble impossible. Et puis face finalement à leur propre incapacité, ils vont dire à Jésus, augmente notre foi. Puis nous, on a tendance à faire la même chose. Hein. Quand on se sent incapable, on va dire, Jésus, il demande d'être pardonné à ses disciples. Puis il dit, mais c'est tellement impossible de pardonner comme tu nous le demandes, ou d'aimer comme tu nous le demandes, etc. Mais augmente notre foi. Donc nous aussi, on a la tendance à faire pareil. Mais la réponse que Jésus va donner, elle est surprenante. Parce que finalement, il va dire, il suffit d'avoir... la foi comme un grain de moutarde. Il suffit d'un grain de moutarde. À quelque part, il veut dire par là que ce n'est pas une question de quantité, mais c'est la question de la nature du grain. Hein, j'avais dit, un grain de moutarde, ce n'est pas une graine de tournesol ou une graine de courge, je ne sais pas quoi. Un grain de moutarde, il est fort parce que c'est un grain de moutarde. D'accord ? Donc, notre foi, si elle peut déplacer des montagnes, c'est parce que notre foi, elle est en Dieu. C'est hyper important. Elle est en Dieu Tout-Puissant, au-dessus de Dieu, le Dieu qui a vaincu la mort, qui a triomphé, comme on l'a chanté, comme on l'a célébré, qui a triomphé du monde par Christ. Donc c'est la foi en qui est Dieu. Pas seulement en ce qu'il peut faire, parce qu'on pourrait aussi dire, il sait faire plein de choses, puis je crois qu'il sait faire plein de choses. C'est pas seulement, c'est vraiment en lien à sa nature. Souvenez-vous de la guérison d'un boiteux à la porte du temple. Hein, acte 3, on connaît super bien cette histoire, la porte, la belle porte. Et puis c'est la guérison, c'est Pierre avec Jean. Hein, puis ils vont dire à tout, après cette guérison, donc ce boiteux est guéri miraculeusement. Hein, vous souvenez, il faisait la manche, hein, et puis je n'ai ni or ni argent, tout ce que j'ai, je te le donne. Hein, il proclame cela, le boiteux est restauré, guéri, etc. Et puis ensuite, ils vont dire ceci au verset 15, donc Pierre va dire ceci devant tous les juifs présents, témoins de ce miracle, vous avez fait mourir le prince de la vie que Dieu a ressuscité, nous en sommes témoins. C'est par la foi en son nom qu'il a raffermi celui que vous voyez et connaissez. C'est la foi en Jésus qui a donné à cet homme une entière guérison en présence de vous tous. C'est par la foi, c'est pas par nous, mais c'est par la foi en Christ, prince de la vie. C'est qui il est. Ainsi, la foi qui plaît à Dieu, elle commence donc par reconnaître qui Dieu est. C'est ce que nous avions vraiment vu la dernière fois. Ce n'est pas quelque chose que je possède dans une armoire. J'avais parlé de mon pot de Nutella. La foi n'est pas une pâte à tartiner. La foi naît d'une relation qui nous appelle à reconnaître la puissance que renferme le grain, le potentiel du grain. Donc c'est vraiment ça, c'est lié à qui est Dieu, à ma relation avec lui. Si j'ai de la foi, c'est que je crois en qui il est. Puis j'avais aussi rapidement mentionné que dans l'Ancien Testament, la foi, elle était liée à la fidélité. Donc celui qu'on disait, il a de la foi, c'est parce qu'il était reconnu comme un homme fidèle à Dieu. C'est intéressant de faire ce parallèle-là entre la foi et la fidélité, finalement, qui d'ailleurs est un même mot. Et puis, c'est peut-être important quand même de mentionner que dans le Nouveau Testament, parce qu'il ne s'agit plus finalement de notre fidélité, c'est Jésus le garant de notre fidélité. C'est Jésus le garant de notre fidélité. Donc notre foi, elle repose sur son œuvre parfaite à la croix et sa résurrection. Donc ça, c'est extraordinaire parce que si on se dit, ben, j'ai pas assez de foi parce que moi, je suis pas fidèle, bien sûr, de tout notre cœur, on veut être fidèle au Seigneur, mais la réalité, c'est qu'on ne l'est pas. Et ben là, vous savez que Jésus, lui, est fidèle. Et c'est au travers de Jésus, de nouveau, qu'on peut recevoir. Donc nous croyons en un Dieu de grâce, de restauration, de pardon, de réhabilitation, de guérison. Ce qu'il fait pour toi aujourd'hui, il désire aussi le faire pour d'autres. Donc lors du premier message, c'était très important que je pose cette base pour parler aujourd'hui, ce matin, de la foi qui obtient. Parce que si on pense que la foi, c'est la petite gourde d'Astérix, comme ça, et puis que, ou bien que c'est le pot de pâte à tartiner, ben forcément qu'on va réaliser assez vite qu'il nous en faudrait plus pour obtenir un résultat, plus pour obtenir ce que je demande dans mes prières. Donc c'est pour ça que c'est important de bien placer, de dire ben non, c'est pas quelque chose que je peux additionner dans mon placard et puis m'en faut un peu plus, mais que je regarde c'est quoi la foi. C'est j'ai foi en qui. Alors lorsque je parle d'une foi qui obtient, je pense à cette foi qui espère sans voir, mais qui finit par voir une réalisation. Elle obtient quelque chose, la réalisation de la promesse. D'un coup, cette foi qui, on a dû faire une démarche, on a dû faire un pas, mais d'un coup on voit l'action de Dieu, on voit le miracle s'accomplir. On pourrait parler d'une foi victorieuse, ça nous fait toujours un peu peur parce que c'est un peu triomphaliste comme ça. Mais en l'occurrence, il y a Jean qui dit « La victoire qui a triomphé du monde, c'est votre foi. » Donc la foi, elle peut être victorieuse, elle doit être victorieuse, parce qu'elle ne dépend pas de nous, ce n'est pas de nouveau quelque chose qui s'additionne, mais elle dépend de Dieu. À la fin du chapitre 11 aussi, du livre des Hébreux, après avoir énuméré donc, les héros de la foi, eh ben, on peut lire ceci, des fois on ne va pas jusqu'au bout. Il est dit « Par la foi, ils ont vaincu des royaumes, exercé la justice, obtenu la réalisation de promesses, fermé la gueule de lion, éteint la puissance du feu, échappé au tranchant de l'épée, repris des forces après une maladie, été vaillant à la guerre, mis en fuite des armées étrangères. » Par la foi. Donc ça, c'est une foi qui obtient pour moi. Okay, y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous aimeriez aussi que vos montagnes de difficultés bougent? Est-ce que vous aimeriez ça? Elles se déplacent? Est-ce que vous aimeriez aussi être témoin du miraculeux? Il n'y a que moi? Allez, il y en a quelques-uns. Voilà, Dieu vous voit. Alors ce matin, on va se poser une question. Quelles sont les conditions nécessaires pour que notre foi obtienne ce qu'elle espère? Je vais vous proposer trois réponses à cela. Donc, bien sûr, le préambule, encore une fois, je le répète, c'est que nous avons compris que tout d'abord, notre foi, elle est basée sur la personne de Dieu et ses attributs. Donc nous croyons en qui il est. Ça, c'est la foi qui plaît à Dieu. C'est hyper important. Mais une foi qui obtient, premièrement, eh ben, elle vient de la parole et de ses promesses. La parole de Dieu. Quelque chose à nous dire. Donc on lit en Romains 10, 17, un verset aussi bien connu, qui dit ceci, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Alors dans le contexte, Paul il est en train de dire, ben, « Moi je prie que tous les Juifs soient sauvés, que tout Israël soit sauvé. » Et puis il dit, mais comment sauront-ils hein, si personne entend? Comment sauront-ils si personne prêche? Et puis il vient avec ce verset-là, « La foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc dans le sens qu'il faut que cette parole de Dieu, elle soit proclamée, cette parole de Dieu, elle soit prêchée, pour qu'elle puisse être reçue. Donc la parole de Dieu, bien sûr, il y a la parole écrite, il y a la Bible. Il y a effectivement la prédication de la parole, comme ce matin, ou comme Marc l'expérience, j'y reviendrai. Puis bien sûr, il y a aussi la réalité que Dieu parle à chacun de vous par un tas de moyens différents, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, nous dit Job. Hein ? Une pensée, une image, un songe, au travers de sa création. Je ne sais pas si vous avez vu l'autre jour, il y a eu un arc-en-ciel extraordinaire, juste en dessous de c'était quoi, les Tuileries, comme ça. Là. Je dis, il y a quelqu'un qui a dû prier pour avoir un signe, ce n'est pas possible, je n'ai jamais vu un arc-en-ciel comme ça. Mais ça m'a parlé. Waouh, d'un coup, ça correspond à quoi? À quelque chose aussi pour nous. En fait, ce que Dieu dit nous invite à la foi. Ce que Dieu dit nous invite à la foi. Croyez en moi, Jésus va dire, hein, ayez foi. Mais sa parole entière, elle nous raconte tellement de merveilles. Et puis, il y avait vraiment ce but de raconter, de dire les merveilles de Dieu. De dire à la génération suivante ce que Dieu a fait. Parce que quand on entend ce que Dieu fait, eh ben, ça suscite la foi. On dit, waouh, c'est extraordinaire. Mais si on dit rien, mais il n'y a rien qui se passe. Donc on a besoin d'entendre, d'entendre par nos témoignages, comme celui de Gauthier, ça nous encourage. Mais au travers de la parole, eh ben, nous sommes encouragés, notre foi est encouragée. Quelque chose se passe lorsqu'on lit cette parole. On est encouragé à croire lorsqu'on considère tout ce que Dieu a déjà accompli. Donc peut-être je vais le redire, ce que vous lisez là, c'est vraiment passé. D'accord ? Ce que vous lisez là, c'est vraiment passé. Puis le Dieu en qui vous croyez, c'est le même Dieu aujourd'hui. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il n'a pas changé. Donc, ces choses sont véritables. Et ça doit nous encourager encore aujourd'hui, nous faire grandir. La parole de Dieu, elle nous révèle qui il est. Elle démontre par les témoignages qu'elle renferme la puissance de Dieu, sa volonté, son amour, etc. Alors, une question toute simple, que faites-vous de ce que Dieu dit? Que faites-vous de ce que Dieu vous dit? Que ce soit au travers de la Bible ou bien d'autres manières, dans votre quotidien, lorsqu'il vous dit quelque chose, lorsqu'il vous parle, qu'est-ce que vous en faites? Un jour, Dieu a dit à un homme de 99 ans, « Je te multiplierai. » Je te rendrai fécond, et puis tu deviendras Abraham, le père d'une multitude. 99 ans. Je te rendrai fécond. Multitude. Eh bien, Abraham s'est accroché à cette promesse parce que Dieu avait parlé. Parce que Dieu avait parlé. Il s'est accroché à la promesse. Et Paul dira en Romains 4, espérons contre toute espérance, Abraham a cru et est ainsi devenu le père d'un grand nombre de nations, conformément à ce qui lui avait été dit. Telle sera ta descendance. Donc il a cru à cette parole. Qu'est-ce que je fais lorsque Dieu me parle? Quelle promesse avez-vous reçue de la part de Dieu pour votre vie? Il est peut-être question de votre appel, de votre vocation. Qu'en est-il? Est-ce que Dieu a parlé? Est-ce que vous avez gardé ça avec foi? Moi, je me souviens, un jour, du haut de mes 12 ans, j'ai reçu cette conviction, cet appel que j'allais le servir. Wow. C'était extraordinaire, j'étais tellement excité, j'ai dit waouh, il m'a pris dans sa team, c'est trop cool. J'étais vraiment tellement content. Puis après, je me suis dit, mais en fait, je vais faire comment? Enfin, c'est comment que ça va se passer? Ça veut dire quoi, servir Dieu? J'avais aucune idée de tout ça. Puis ça a duré 10 ans. J'ai rencontré ma femme, je lui ai dit, tu sauras, moi je veux servir Dieu. Elle m'a dit, ouais, ok, super, pas de problème. Mais ce n'était pas très précis, tu vois. Je veux servir Dieu, ok. Puis un jour, elle m'a dit, bah, tu aurais quand même pu me dire que tu voulais être pasteur. Je lui ai dit, désolé, je ne savais pas ce que ça voulait dire, servir Dieu. Je ne savais pas comment ça se concrétiserait. Mais cette parole que j'avais reçue, je l'avais reçue. Dieu avait parlé, c'était clair. Dans le Nouveau Testament, il y a un récit que j'aime beaucoup, c'est le dernier voyage de Paul pour Rome. Je vous dis rapidement le contexte. Donc, il est prisonnier, il doit comparaître devant César et se retrouve avec d'autres prisonniers sur un bateau. Donc il est escorté. Et puis Paul a une vision qu'il va partager. Il voit qu'il va y avoir une tempête. Il y aura des dommages pour la cargaison et pour le bateau. Donc il dit, je vois ça, je vous le dis. Puis personne ne l'écoute. Évidemment, il y a un capitaine sur un bateau. Pas commencer à écouter Paul, le prisonnier. Ça n'a pas de sens. En plus, il nous dit il voit quelque chose. Bon, pas très... Voilà. Donc, ils auraient dû, malgré tout, écouter, parce qu'effectivement, ils vont traverser une tempête. Et puis, une tempête qui va durer vraiment plusieurs jours. Hein. C'est vraiment une tempête forte. Et voilà qu'ils sont obligés, effectivement, de balancer la cargaison par-dessus bord. Donc, vous imaginez aussi économiquement le manque à gagner. Et puis voilà qu'ils n'ont même rien à manger pendant plusieurs jours. Pendant 3 jours, sur le bateau, ils vivent cette tempête. Et c'est vraiment cauchemardesque, quoi. Ils n'ont rien à manger et tout. Et le texte nous dit même qu'ils avaient perdu tout espoir d'être sauvés. Donc finalement, c'était un peu... voilà, on verra bien, mais il y a peu d'espoir. Il n'y a même plus d'espoir du tout. Et puis, Paul va reprendre la parole en acte 27, 21-25. Puis, écoutez bien ce qu'il va dire. « Mes amis, vous auriez dû m'écouter. » et ne pas repartir de Crète, vous auriez évité ce péril et ce dommage. Mais maintenant, je vous exhorte à prendre courage, car aucun de vous ne périra, mais seulement le bateau. En effet, un ange du Dieu auquel j'appartiens et à qui je rends un culte s'est présenté à moi cette nuit et m'a dit « N'aie pas peur, Paul, il faut que tu comparaisses devant César et Dieu t'accorde la grâce de tous ceux qui naviguent avec toi. » Prenez donc courage, mes amis, car j'ai cette foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. J'ai foi en Dieu qu'il en sera comme il m'a été dit. Il a foi en Dieu, il a foi en la parole de Dieu et en sa promesse. Il croit vraiment à l'accomplissement de la parole de Dieu. Et c'était une parole ici circonstancielle. C'était pour maintenant, c'était pour tout de suite, c'était pas justement un avenir lointain, c'était maintenant, là, tout de suite, dans la vie quotidienne de Paul. Certes, une vie quotidienne un peu folle, c'est vrai, je vous l'accorde. Mais quand même, c'était la vie quotidienne. Dieu lui parle, il saisit cette parole, il y tient ferme, et puis ça s'accomplit. As-tu foi en Dieu et sa parole lorsqu'il te parle dans ton quotidien? L'histoire se termine avec une happy end. Ainsi, tous sont parvenus à terre, sains et saufs, sur l'île de Malte, nous dit la parole, acte 27, 44. Donc, une foi qui vient de la parole, de la promesse de Dieu. Deuxièmement, une foi qui obtient, elle ne doute pas. Jésus a dit à ses disciples en Matthieu 21, je vous le dis en vérité, si vous avez de la foi et que vous ne doutez pas, non seulement vous ferez ce qui a été fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette montagne, retire-toi de là et jette-toi dans la mer, cela arrivera. Tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. On ne devrait pas laisser place au doute, en fait. Notre foi est basée sur qui est Dieu et sur sa parole. Sur sa promesse, on pourrait dire, enfin, franchement, pourquoi douter, hein, si c'était si facile? Pourquoi douter? Qu'est-ce qui pourrait bien nous faire douter? Pourtant, dans les évangiles, on voit que Jésus reproche le peu de foi des disciples. Puis ça m'a marqué encore hier, justement avec Marc l'Expérience, c'est vraiment marqué, Marc l'Expérience. C'est vrai, si vous n'êtes pas venu à Marc l'Expérience, venez ce soir à 17h, on traverse tout l'évangile de Marc. Mais c'est vrai, il y a tellement de fois où il est question de la foi, tellement de fois il est question de la foi, bon désolé pour les répétitions, mais c'est extraordinaire. Et c'est vrai que des fois ils reprochent ça, parce qu'ils n'obtiennent pas, mais là encore, ce n'est pas une question de quantité. Un petit survol rapide, Matthieu 6, 30, et ben là, il est question de sa capacité à pourvoir aux besoins. Puis il va justement leur reprocher d'avoir peu de foi. Hein, puis c'est là qu'il parle des oiseaux qu'il nourrit, et puis des fleurs qu'il habille. Hein, donc ne vous inquiétez de rien. Donc ils doutaient en fait de la capacité de Dieu à pourvoir aux besoins. Puis en Matthieu 8, il est question ici de calmer la tempête. De nouveau, là, c'est de nouveau une tempête, un bateau, etc. Mais si Jésus leur reproche leur manque de foi, c'est parce qu'ils ne croient pas qu'il est capable. Ils ne croient pas qu'il a l'autorité sur les éléments. Ils n'ont pas encore compris, ils n'ont pas encore eu la révélation qu'il a même l'autorité sur le vent et l'orage qui est là. Et puis en Matthieu 16, c'est nous une question de capacité à pourvoir, mais c'est intéressant parce que c'est aussi une question d'erreur, c'est un peu un quiproquo avec les disciples, où finalement, ils ont oublié de prendre du pain, et puis Jésus va commencer à leur parler du levain des Sadducéens, et puis eux, ils disent, ah, il nous parle du levain des Sadducéens parce qu'on a oublié de prendre le pain. Puis je leur dis, mais... Vous en êtes où là ? Non, pas du tout. Je suis en train de vous dire de vous méfier de l'enseignement des Sadducéens, mais que vous ayez oublié le pain, c'est pas un souci. Vous manquez de foi parce que je vais m'en occuper à quelque part. Hein ? Donc, j'aime bien cette idée que voilà, là, il rattrape même nos erreurs, hein, ce qui est pour nous des erreurs. Et puis parfois, on manque de foi, on a de la peine à penser que lui va aller au-delà. Donc le doute, pour revenir au doute, ben le doute vient de notre manque de connaissance. Notre manque de connaissance de qui est Dieu, souvent, justement, ben il pourvoit aux besoins. C'est une réalité, c'est qui il est. Le doute peut venir aussi avec le temps. Parce que quand vous recevez une parole, quand vous avez une promesse et puis que ça, vous ne voyez pas l'accomplissement, ben là vous commencez à vous dire, mais est-ce que vraiment il l'a dit ? Est-ce que vraiment il va le faire ? Est-ce que vraiment ? Puis là, il y a le doute qui vient. C'est sur le long terme, c'est avec le temps. Je me souviens d'ailleurs que j'ai une promesse qui me fait toujours rire. J'avais reçu, alors c'était une sorte de prophétie comme ça. Alors des fois, il faut, vous savez, on doit examiner toute chose, hein. Et puis, donc, il y a des choses qu'on met de côté, puis on dit on verra bien. Puis en l'occurrence, ça ne me dérangeait pas de mettre de côté cette prophétie, parce que la personne a dit, donc il y avait plusieurs choses, plusieurs éléments. Puis elle avait dit, tu seras une bénédiction financière pour beaucoup. Je dis, ah, bon, j'attends toujours, mais je le suis pour quelques-uns quand même. Alléluia, Dieu est bon. Mais vous voyez, c'est rigolo, il y a des choses comme ça. Je dis, ça veut dire quoi ? Est-ce que, bon, ben, on met de côté, et puis voilà. On a foi que, bon, de nouveau, si c'était vraiment une parole de Dieu, ben, ça s'accomplira. Hein, mais ça peut prendre du temps. Le doute vient selon, j'ai mis lorsque la vague est trop grande. Hein, selon un peu nos circonstances. Des fois, nos circonstances, elles nous dépassent tellement. Là, on commence à douter parce qu'on se dit, mais en fait, ouais, la vague, elle est vraiment trop grande. Enfin, là, personne ne pourra même pas me sauver. Enfin, je veux dire, c'est trop. Et puis, ça, c'est de nouveau nos yeux humains. Commence à nous laisser ce goût du doute, mais c'est bien sûr pas ce que Jésus veut faire. Hein. Donc la grosseur de la vague, les circonstances. Et puis le doute vient lorsqu'on regarde à soi, parce que forcément lorsqu'on regarde à soi, ben, on détourne les yeux de qui est Dieu. Donc c'est de nouveau ce côté où ben, nous on a oublié, donc il n'y aura pas à manger, hein, ses disciples. Hein. Et puis en fait, Dieu dit mais non, pas parce que tu as oublié qu'il n'y aura pas à manger. Regardez pas à vous-même, puis à ce que vous n'avez pas fait, mais regarde à moi. Donc quand on détourne un peu les regards, puis qu'on se regarde nous-mêmes, ben oui, là, on a de quoi douter un petit peu. Si je reviens à Abraham, vous êtes encore là ? Dans la suite du texte de Paul aux Romains, il va dire ceci. « Sans faiblir dans la foi, il n'a pas considéré que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans, ni que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il n'a pas douté par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il a été fortifié par la foi et il a rendu gloire à Dieu, car il avait la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. » C'est vrai, c'est Abraham, le père de la foi, mais enfin, moi, chaque fois que je relis ce texte, je trouve que c'est extraordinaire. Il y a vraiment tout ici. Il connaît Dieu. Dieu ne ment pas. Dieu, est ce qu'il promet, il l'accomplit. Il a la puissance pour le faire. Sa foi regarde à Dieu. Il croit à la promesse, même dans des circonstances défavorables. Et puis, il ne faiblit pas dans le temps. Il ne faiblit pas. Ça a pris du temps, c'est pour que tout cela se passe. Il ne doute pas. Le texte cité précédemment nous dit aussi « Lorsque tu demandes avec foi par la prière. » Lorsque tu demandes avec foi, donc, sans douter, ne doute pas. Mais j'ajoute aussi que lorsque nous demandons dans la prière, je crois que c'est important de le redire, c'est important que ce soit conforme à la volonté de Dieu. Donc ça demande de nouveau d'écouter Dieu, de recevoir une parole de sa part, une promesse, une conviction. Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à cette situation? Puis c'est à partir de là qu'on prie, puis qu'on intercède, et puis qu'on tient, puis qu'on persévère avec foi. C'est important. Si vous avez l'occasion, vous pouvez réécouter la série intitulée « Ce que vous demanderez au Père ». On avait parlé de la prière, mais je ne vais pas m'attarder là-dessus ce matin. Donc, troisième point, une foi qui obtient, eh bien, elle prend des risques. En fait, pour obtenir, il faut passer par l'obéissance. C'est là que ça coince. C'est toujours le mot obéissance. Enfin, on y revient encore et encore. C'est pas vrai. Tu peux reconnaître Dieu dans toute sa puissance. Tu peux avoir reçu une parole précise. Tu peux même croire que cela va se passer. Mais finalement, si tu n'entres pas dans l'obéissance, si tu ne fais pas ta part, ben rien ne se passera. Tu n'obtiendras pas la promesse. C'est dur. Parce que la promesse est là. Elle est disponible. Puis d'ailleurs, même ce qu'il va dire dans Romains 10 par rapport à Israël à ce moment-là, ils ont dit, mais ils ont même eu la parole, ils ont même entendu. Mais ils sont rebelles. Donc, parfois, on est comme ça. On a tout, mais on ne fait pas ce premier pas. Prenons l'exemple de Noé. Dieu parle. Bon. Comme d'habitude, un petit gag, l'exemple de Noé, voilà. Qui dit à l'éléphant, arrête de jouer à Titanic, tu vas nous porter la poisse. Voilà. À un moment donné, Noé, il a quand même dû construire un bateau dans un lieu désert. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Enfin, il lui donne des dimensions, il lui dit comment faire, ça c'est gentil, quoi. Mais imaginez, il faut quand même prendre la première planche. Un truc de 150 mètres de long, 15 mètres de large, vas-y. Il y en a qui font de la construction, de la rénovation. Mais vous avez la dose de foi qu'il faut avoir pour commencer à construire quelque chose dans un lieu. Mais ça n'a aucun sens. Donc il a dû prendre le risque. Le risque de faire ce que tout le monde pouvait critiquer, faire que c'était fou, mais en même temps, il avait cette parole de Dieu. Il savait qui était Dieu, il dit, mais si Dieu me demande ça, alors. Là aussi, il est dit qu'il était fidèle. Noé était fidèle et intègre, c'est pour ça que Dieu l'a choisi. Donc il avait cette foi, il avait cette fidélité qui était là. Et puis Noé, effectivement, a été fidèle en prenant le risque de construire ce bateau. Hier, je buvais un café, ça m'arrive souvent, je buvais un café dans un lieu public. Et puis, j'étais avec mes pensées. Je travaillais pour aujourd'hui. Ça réfléchissait. Donc, j'étais très concentré dans mon coin. Et puis, voilà qu'il y a un couple qui s'assoit pas très loin de moi. Et puis, je ne fais pas très attention. Puis, d'un coup, j'entends juste une petite chose comme ça. Ils parlent de l'école d'un de leur enfant. Et puis, en fait, avec ça, je me dis, ah, en fait, ils doivent être en séparation ou divorcés, quelque chose. Puis, en fait, je vois que, comme il lui parle, lui, qu'il est encore... en fait, ils font un point de situation. Ils sont en train de faire une vraie discussion. Peut-être qu'ils n'avaient pas eu depuis longtemps. Et puis, en fait, ça va aller où, notre couple ? Puis, c'était vraiment... je le voyais parler avec beaucoup d'amour, beaucoup de patience, beaucoup de douceur. Et puis là, j'ai quelque chose qui me... Quand j'en parle encore maintenant, j'ai quelque chose qui vient de la part de Dieu. Puis je commence à prier, en langue, je commence à prier pour eux. Je dis, Seigneur, tu inspires cet homme qui parle selon ton cœur. Voilà, je prie. Et puis après, je sens que je vais devoir dire quelque chose. Je sens que ça chauffe, là, c'est pas possible. Il va falloir que je dise quelque chose. Et puis là, vous savez, il y a quand même ce moment où tu dis, mais purée, enfin, je vais faire quoi ? Je vais dire quoi ? Mais je sens qu'il fallait, donc je rassemble mes affaires, je prépare ma tâche, je dis, bon, ben, je vais aller payer, puis en passant, je glisserai un petit mot. Et puis c'est ce que j'ai fait. Et puis, je l'aurais pas présenté l'évangile. Je ne pense pas que ça aurait été opportun à ce moment-là. Mais je leur ai dit, je ne sais pas, j'ai juste capté deux, trois choses de votre conversation. Ce n'est pas dans mon habitude. Mais j'ai vraiment énormément d'amour pour vous. Et j'aimerais vous encourager. J'ai compris qu'il y avait une séparation. Mais battez-vous. Battez-vous. Il faut que vous battez. Et là, il a empoigné ça. Non. Vous cassez mon punch émotionnel. Non. Battez-vous pour votre couple, quoi. J'ai juste dit ça. Battez-vous pour votre couple. Ne laissez pas tomber. Battez-vous pour votre couple. Et puis là, le monsieur, il a commencé à pleurer. Et puis, j'étais tout tremblant. Franchement, j'étais tout tremblant. Puis je suis parti. Un peu comme ça, je ne sais pas, est-ce qu'il faut faire plus, bon. Mais tout ça pour dire, c'est pas pour dire, waouh, super, j'étais hyper content d'avoir été utilisé par Dieu. Hein, il y a une joie qui est là quand on fait ce que Dieu nous demande. Donc je vous encourage, pas à laisser passer ces occasions, mais il y a toujours ce risque, il y a toujours ce pas, il fallait que j'ouvre ma bouche, il fallait que je me lève, puis franchement, mais vraiment, à un moment donné, c'est tellement pressant qu'on peut plus dire non, mais il y a quand même ce pas dans le vide où il faut dire la première parole, puis tu sais pas si c'est adroit, puis tu dis, puis le Saint-Esprit fait le reste, quoi. Puis après, je débriefe avec Dieu, puis je dis, j'ai fait ce qui me semblait être juste de faire, je me suis laissé, puis je dis, c'était peut-être juste un jalon, puis j'ai aucune idée de leur arrière-plan, puis je sais pas qu'est-ce que... Après, je me dis, peut-être en fait, ce gars, c'était vraiment ce qu'il avait juste besoin d'entendre, puis voilà, on laisse faire. Mais il y a le risque, puis là c'était le risque d'ouvrir ma bouche. Donc la foi qui obtient, elle ose faire ce pas dans le vide. On a tous les éléments, mais il faut faire le pas. Est-ce que vous connaissez, j'arrive bientôt au terme, est-ce que vous connaissez le plus vieux, Indiana Jones. Eh bien, dans Indiana Jones, il y a une scène extraordinaire qui pour moi illustre merveilleusement ce pas de foi. Et je me suis dit que j'allais vous le montrer aujourd'hui. Ça prend pas long. C'est garanti, ça prend pas long. D'accord ? Voilà. Donc, il y a ce que j'aime trop, quoi. Ce pas où il faut, tu sais pas. Il faut faire le pas. Puis d'un coup, quand tu marches, tac, Dieu est là. La main de Dieu, il te soutient, il est là. Puis il y a du dur. OK ? Bon, du coup, je vous remettrai le PowerPoint vite comme ça. Et hop. Pas tout à fait. Hop. Voilà. Dernière citation de Chambers qui dit ceci. La foi, c'est l'effort héroïque de votre vie, celui par lequel vous vous jetez avec confiance absolue dans les bras de Dieu. Pour nous sauver, Dieu a tout risqué en Jésus-Christ. À présent, il nous demande de tout risquer en nous abandonnant à lui. Donc il y a un risque. La foi qui obtient, elle est risquée. Alors j'aimerais simplement conclure avec ce verset maintenant. Jésus leur dit, ayez foi en Dieu. Qu'est-ce que Dieu te dit ? Qu'est-ce que Dieu t'a dit ? Quelle est la parole de Dieu pour toi aujourd'hui ? Quelles ont été les promesses de Dieu pour ta vie ? Qu'est-ce que tu en fais ? Est-ce que tu les as abandonnées ? Est-ce que tu les as mises de côté ? Est-ce que tu y crois encore ? Ça, c'est jamais trop tard. C'est jamais trop tard. Parfois, il faut les dépoussiérer, il faut les ressortir. Peut-être vous avez pris des notes une fois, Dieu vous a dit quelque chose, afin que vous puissiez remettre ça à la lumière, puis dire oui, j'ai foi, ce que tu as dit, sur la base de ce que tu m'as dit, alors je crois, parce que tu ne mens pas, parce que tu es fidèle, parce que tu es vrai. J'aimerais vous inviter aussi ce matin à enlever, à ôter tout doute. Et je remarque que souvent ces doutes, eh ben on doute principalement de nous. Mais enlevant ces doutes, Dieu est à l'œuvre, Dieu agit. Ce qu'il dit, il l'accomplit. Un seul mot et tu seras sauvé. Et puis la troisième chose, donc osons obéir, osons prendre le risque, osons faire ce pas, même si on ne voit pas. C'est là toute la foi, c'est de faire ce pas dans le vide, ce pas, sans voir encore le chemin. Osons, osons ouvrir notre bouche. Osons prendre une direction sans avoir encore la destination. Mais si Dieu vous dit d'aller, allez, là où tu es, j'aimerais être aussi. Je vous invite à la prière. Père, merci parce qu'une fois encore, tu nous encourages à tourner nos regards sur toi, sur qui tu es. Merci pour cette parole finalement qui enlève peut-être toute pression ou toute culpabilité en disant « mais il faut que j'aie plus de foi ». Augmente ma foi. Seigneur, ce matin, tu nous dis encore que ce n'est pas une question de quantité. C'est une question de relation. Il s'agit de toi et de nous. Et Seigneur, on désire cela. On désire te connaître vraiment pour qui tu es. Seigneur, dans ce sens-là, nous réalisons que tu es un Dieu de parole. Tu es un Dieu de la parole. Tu te révèles dans ta parole. Et ta parole, elle suscite la foi. Seigneur, je prie que tu viennes souffler, Saint-Esprit, sur ces paroles que tu nous as dites. Et peut-être que nous avons oublié ou même mis à la poubelle. Seigneur, viens redonner des paroles pour nos vies. Des paroles qui donnent une direction. Des paroles qui sont des paroles de foi. De ta part, des paroles qui nous engagent, des paroles qui nous amènent à avancer pour toi. Seigneur, viens, dans ce petit moment maintenant, tu viens remettre à notre esprit une parole que tu nous avais donnée. Et merci parce que c'est pas seulement dans le passé, c'est aujourd'hui, c'est demain, c'est dans le quotidien que tu nous parles. Nous croyons que tu fais ce que tu dis. Nous avons confiance dans cette parole. Saint-Esprit, tu ôtes aussi de nos cœurs tout doute. Peu importe l'origine de ces doutes, finalement. Mais Seigneur, tu fais ton œuvre aussi, Saint-Esprit, maintenant. Enlève tout doute de notre esprit. Que nous puissions saisir ta parole avec une pleine foi, comme Abraham a saisi cette promesse, sans douter, sans incrédulité, même si c'est fou, même si ça nous paraît complètement en dehors du possible. Tu es le Dieu de l'impossible. Seigneur, je te prie encore pour ceux qui doivent aujourd'hui, demain, faire un pas dans le vide, faire ce pas de foi. Seigneur, je prie que tu nous permettes d'oser, de prendre le risque, d'oser faire ce pas dans le vide, parce que tu es là. Là aussi, c'est peut-être dans les circonstances présentes, quelque chose qui paraît fou. Mais Seigneur, ce qui est folie aux yeux des hommes, c'est sagesse à tes yeux. Seigneur, on veut regarder à toi encore là et avancer avec cette confiance en toi. Tu encourages chacun ce matin dans notre chemin spécifique. Tu es là. Suscite cette foi au travers de ta parole. Suscite cette foi, Jésus. Gloire à toi. Amen.